midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mes invités, parce que j'en ai deux aujourd'hui. Basile de Bure, bonjour.
Bonjour.
Alias Ghost.
Il fut un temps, oui.
Ouais, pour ceux qui vous connaissent, journaliste. Vous êtes un enfant de la balle, comme on dit.
Exactement.
Parce que vous avez suivi les traces de vos parents, qui étaient journalistes, mais vous auriez pu être un autre enfant de la balle, puisqu'enfant, vous rêviez d'être footballeur.
Eh oui.
Voilà. Et vous partez sur les traces de votre rêve brisé avec un récit en immersion.
Exactement, ouais. C'est vrai que je rêvais d'être footballeur quand j'étais ado, mais malheureusement, j'étais pas assez fort. Du coup, j'ai pu un peu vivre mon rêve par procuration, puisque j'ai suivi pendant un an une équipe de U15 au Red Star.
Voilà. Et vous nous expliquerez ce que c'est que U15. Mais en fait, vous avez vécu par procuration ce que vous auriez pu vivre à votre époque.
Oui, tout à fait.
Vous êtes venu avec Nadir. Bonjour Nadir.
Bonjour.
Vous êtes gardien de but au Red Star, c'est ça? Depuis l'âge de vos 6 ans?
Oui, 5 ans.
De
5 ans.
De vos 5 ans?
Oui.
Ah ouais. Vous êtes le plus ancien de votre génération, en fait.
Ouais. Et j'étais avec Sean aussi.
Sean qui est arrivé. Lui, il avait 6 ans. Non?
Non, 5 ans.
5 ans? 5 ans, on commence.
Enfin, c'était U6, mais U6, c'est les moins de 6 ans. C'est-à-dire, quand on commence l'année, on n'a pas 6 ans.
D'accord. U6, ça veut dire, pour ceux qui nous écoutent,
moins de 6 ans, ouais, c'est ça. Comme ça qu'on classe les catégories. Et donc, moi, mes U15, ils avaient 14 ans.
C'est moi qui ne suis pas branché foot ou personne ne sait ce que ça veut dire, U15, U6 Vous le saviez, vous, par exemple, Basile, avant d'écrire votre livre?
Alors, moi, je joue en club de foot toujours, à un tout petit niveau, mais je continue. Donc, quand on est dans le quotidien d'un club de foot, ouais, on est un peu familier avec ces termes. Mais j'ai dû l'expliquer assez régulièrement. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément toujours évident.
D'accord. Donc, vous publiez Deux pieds sur terre chez Flammarion. D'ailleurs, vous expliquez que quand vous êtes arrivé, Nadir a été quasiment le premier qui a trouvé que c'était une bonne idée de faire un livre.
Ouais, absolument. C'est vrai que quand j'ai parlé de mon projet au tout début, je me rappelle très bien de ce jour où j'ai annoncé que j'allais faire un livre et j'avais pas beaucoup de réactions. Il y avait des garçons qui étaient encore un peu timides, qui se demandaient ce que je faisais là. Et ouais, il y en a quelques-uns, Nadir, Anis, qui ont eu une petite réaction, heureusement.
Bon, soi-disant que vous avez un profil atypique, Nadir, ça veut dire quoi un profil atypique?
Je demande à Basile, moi c'est sûr.
D'accord, bah si vous voulez...
C'est profil atypique, ouais. Gardien. Bah la particularité de Nadir, c'est qu'il est pas encore très grand par rapport à certains standards de centre de formation.
De taille.
Ouais, exactement. Mais bon, il est quand même très grand dans l'absolu, mais il y a des standards qui sont très élevés dans les centres de formation. Et puis d'ailleurs, faut quand même dire aussi qu'il a pas fini sa croissance et que du coup, il rentre dans cette catégorie qu'on appelle ouais les gardiens de petite taille. Mais c'est quelque chose qui compense avec des qualités sur sa ligne, athlétique et de vraiment de qualité de jeu au pied qui font que c'est un très bon gardien.
D'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui, Nadir?
Là, j'ai 16 ans.
Ouais. Faut pas être un peu fou pour choisir d'être gardien de but?
Moi, je me rappelle pas, c'était sur un coup de tête. Hein. Et je me rappelle plus comment j'ai été gardien. Au début, j'étais joueur. Après, d'un coup, je suis passé gardien. Et après.
C'est un truc qu'on décide d'être gardien? Parce que.
J'ai dû décider ça alors. Ouais. Parce que mes parents, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Moi, je ne voulais rien entendre. Et après, je suis passé gardien.
Bien. Vous êtes, vous avez un père algérien et une maman marocaine, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc, la question qu'on pose toujours dans ces cas-là, c'est si vous deviez choisir une équipe nationale, vous allez vous jouer où? Tink. Je vous préviens, vous êtes sur Beurre FM. Tink. Choisissez bien votre camp.
Ah, mais ma mère, elle écoute. Comment on fait? J'ai pas de problème à la maison.
Mais c'est une question que vous vous êtes posée ou pas, vous?
Ouais, bien sûr. Après, là, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être appelé avec les moins de 16 ans de l'Algérie. Donc, du coup, j'ai pas eu à choisir.
D'accord. Et c'était bien, cette expérience?
Ah, du coup, malheureusement, on l'a pas fait parce qu'il y a eu le coronavirus qui a tout...
Franchement, ouais, c'est pas tout.
Ouais, non, c'était pas de chance.
Ouais. J'ai expliqué dans le livre que vous avez failli arrêter au moment où vous étiez U13... quelque chose, enfin ce que Basile cherche à comprendre dans le livre, c'est savoir ce qui motive tous ces jeunes. Qu'est-ce qui fait que subitement vous dites je serai pas footballeur professionnel?
Ah, c'est tout, hein. Franchement, quand on est petit, c'est dur d'être fort mentalement dès son jeune âge. Et comme il a dit Basile dans son livre, nous quand on fait du foot de haut niveau, on n'a pas le temps d'être des enfants. On doit être des grands dès l'âge de 11 ans, être fort mentalement. Et franchement, c'est dur des fois. Des fois, juste ne pas jouer un match, deux matchs, ça remet votre cerveau en question. Est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? Nanani, nanana. Et ouais, faut être très fort mentalement.
Mmh. Vous pourriez jouer, vous, rien que pour le plaisir?
Ouais, bien sûr.
Rien que pour le plaisir, ouais. Sans être pro.
Ouais.
Même si c'était pas un métier.
Ouais, pas de problème. Même si je travaillais toute la semaine, je ferais. Je pense que je jouerais le week-end ou dans un club, même le club de mon quartier ou quoi. Un truc comme ça.
Sans gagner d'argent.
Non, il n'y a pas de problème.
Alors, Basile, comment elle est née cette idée? Comment est-ce que vous êtes devenu ce qu'on appelle un infiltré?
Et alors, ouais, j'avais envie de m'intéresser aux années qui précèdent le parcours professionnel. C'était après la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018, avec l'explosion de Kylian Mbappé. Et je me disais que Mbappé, il y a quelque chose, c'est que tout a l'air très facile pour lui. Il bat des records de précocité à chaque fois. C'est un peu le principe du prodige où on a l'impression que tout est évident. Je voulais montrer que, en fait, non, ça n'est pas facile le football. Qu'il y a des années de travail qui se cachent derrière un tel parcours. Des années de travail qui commencent, comme le disait Nadir, dès les U11. Et qu'on a vraiment des jeunes en Ile-de-France qui travaillent comme des dingues pour réaliser leurs rêves. Qui s'entraînent presque tous les jours, qui ne pensent qu'au foot, qui partent pas en vacances, qui travaillent, qui ont une maturité assez incroyable. C'est pour ça que le livre s'appelle « Deux pieds sur terre » aussi. Et de mettre en avant vraiment ce travail. Et de montrer aussi que pour un Kylian Mbappé, il peut y avoir beaucoup de déçus. Que tout le monde veut réaliser ce rêve, mais que tout le monde n'y arrive pas. Et donc de montrer un peu voilà quelles sont les différentes étapes pour devenir professionnel. Et je me suis intéressé donc à cette année en particulier, les U15, donc 14 ans, parce que c'est la dernière année avant de rejoindre un centre de formation.
Et là, vous dites, c'est, tout se joue là. Si vous signez pas en U15...
En tout cas, c'est une étape vraiment décisive. On sait qu'il y a des parcours de jeunes qui rattrapent le train en marchant. On sait que ça existe, et c'est ce que Nadir essaye encore de faire en jouant dans une super équipe en U17 nationaux. Mais effectivement, l'étape des U15, elle est déterminante.
Alors vous racontez que vous avez eu une vie, en essayant de jouer au football. C'était important pour vous, mais bon, les racailles ne voulaient pas vous laisser jouer.
Alors, oh là là. J'ai toujours du mal avec ce mot, évidemment. C'est pas un problème de racaille, je pense que c'est vraiment une histoire de concurrence et d'envie de réussir. Moi, j'étais vraiment pas mauvais, et je me rendais compte que dans mon école,
mais
je
pas, sortais pas mauvais, toujours. Ça veut pas dire bon, hein.
Ah, c'est vrai. Alors, je vais aller encore plus loin, je pense que j'étais bon. Mais que quand je me suis retrouvé dans le contexte d'un club de foot, il y avait une concurrence de tous les jours, mais j'avais 11 ans, 12 ans, donc vraiment dès les premières années où je me suis inscrit, et que c'était quelque chose auquel moi, j'ai pas du tout réussi à résister, en fait. D'avoir cette envie de prendre la place de l'autre pour être titulaire, d'écraser l'équipe d'en face, avec des parfois voilà physiquement ça commençait à être dur, il y avait des différences de gabarit et en fait c'est ça qui m'a fait craquer moi. C'était vraiment pas la qualité, c'était cette pression.
Vous n'aviez pas un mental de compétiteur, c'est ça?
Ouais, je pense que c'est ce qui me manquait.
Vous étiez un footballeur de cours de récré.
Exactement, un footballeur d'entraînement. Le type qui met plein de buts à l'entraînement et le jour du match, il disparaît.
Alors ça vous rattrape plus tard, hein, à la trentaine.
Ouais, même un petit peu avant, ouais. Ouais.
Ça vous rattrape de rejouer, de renouer avec le foot. Et finalement, naît ce projet d'aller voir comment les gamins. Est-ce que vos parents, par exemple, vous auraient laissé faire footballeur si vous leur aviez demandé?
Alors c'est une bonne question.
Votre milieu, c'est quelque chose qu'on n'envisageait pas du tout.
C'est ce que j'allais dire. Peut-être que si j'avais eu vraiment un talent hors norme, on en aurait discuté. Mais il y avait aussi cette chose que je raconte, qui est que dans mon milieu, moi qui venais du centre de Paris et de ce qu'on appelle les beaux quartiers, le football, bon bah c'est une passion sympathique, c'est un sport qu'on peut faire le week-end pour s'amuser. Mais un parcours pro dans le foot, c'était pas quelque chose d'envisageable. Je sentais bien que quand j'avais 11-12 ans et que j'abordais ce sujet, que je disais ça, on me regardait un peu en disant. Ouais, d'accord, cause toujours. Et voilà, donc ça, je ne saurais pas quel aurait été le soutien autour de moi si j'avais été un peu plus loin. Mais c'est sûr que c'était pas quelque chose de sérieux, le foot.
Quand vous avez, parce que vous avez presque suivi une saison complète, hein, les U15, les avez accompagnés, est-ce que vous avez compris la différence entre eux et vous, ce qu'ils avaient de différent par rapport à vous à l'époque, quand vous vouliez être footballeur?
Vous voulez dire dans la détermination, ouais, dans les qualités? Oui, absolument. Vraiment, j'ai senti une maturité que je n'avais pas. Un sérieux, un esprit de compétiteur, vraiment, qui était hors norme. Et puis aussi, parfois, une volonté de s'en sortir par le foot. C'est aussi quelque chose où aussi on sait que c'est dans les quartiers un ascenseur social, que c'est aussi une réalité que j'ai rencontrée. Et qu'on sait qu'on envisage le foot comme une filière professionnelle comme une autre. Alors que chez moi, c'était un hobby.
Vous, Nadir, par exemple, l'école, ça se passe comment?
Ouais, ça va.
C'est-à-dire?
Bah, ça va, je suis bon.
Vous les faites. Ouais. Vous êtes en quelle classe aujourd'hui?
Là, je suis en première.
D'accord. Et vous vous projetez dans quoi avec vos études?
Franchement, j'arrive pas à me projeter, hein, parce que je pense qu'au foot.
En fait, vous faites des études parce qu'il faut faire des études, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Prendre le bac, comme ça, les parents sont tranquilles. Et voilà.
C'est une sécurité, quoi, c'est ça?
Oui et non, parce que même si je deviens pas footballeur, j'ai envie de devenir entraîneur. C'est-à-dire, c'est différent. Ça a rien à voir avec bac ou quoi.
Mmh. C'est pas un parachute.
Pour certains, mais pas pour moi.
Basile, vous vous dites que finalement, parmi tous ceux que vous avez rencontrés, ils sont quand même tous bons en classe.
Ouais. Ça m'a frappé, c'est que quasiment tout le monde était bon à l'école.
Alors attends, t'as rien à dire. si tu as des dossiers, vas-y.
D'accord.
Ben, c'est où je parle pas.
En tout cas, alors, on va le mettre en perspective comme ça. Disons que il y avait une volonté des parents, des éducateurs, de faire un vrai suivi de ce côté-là. C'est pas on mise tout sur le foot et on oublie le reste. Que c'est quelque chose qui allait ensemble. Ce que je raconte aussi, quelquefois, il y a des garçons, quand ils avaient des mauvaises notes ou des heures de colle, ils étaient privés de foot. Ils pouvaient pas venir s'entraîner, ils étaient privés de foot par les parents. Donc il y avait quand même cette notion qu'il faut être fort à l'école pour pouvoir continuer
C'est pas que le foot.
Ouais non, bien sûr, aujourd'hui tout le monde avait conscience que voilà, que les petits avaient du talent, que vraiment il y avait la possibilité peut-être d'aller plus loin, mais qu'il faut quand même garder en tête que l'école c'est la base si jamais ça marche pas. Et qu'il y a un suivi aussi dans les centres de formation, il y a certains centres qui disaient bon bah voilà, on t'a proposé un contrat, maintenant il faut que t'aies le brevet pour pouvoir venir. Donc il y a vraiment aussi cette attention de la part des clubs pro aussi.
C'est la tête et les jambes.
Exactement.
Ça prend combien de temps le centre, en tout cas les trucs 15 par semaine, c'est combien d'entraînements?
C'est trois entraînements. Trois entraînements et après, on s'inflige des entraînements seuls avec nos entraîneurs ou même entre nous, ouais, c'est ça en plus.
Certains, ouais, voilà, il y a trois entraînements par semaine, le match du samedi qui prend toute la journée parce que le déplacement, le temps d'y aller, tous ensemble, une séance supplémentaire dans la semaine avec un préparateur physique pour certains, et puis le dimanche, ils jouent au foot aussi sur les terrains du quartier, quoi. Mmh. J'ai l'impression que c'est quand même tous les jours.
Ouais, bah ouais.
C'est 7 jours sur 7 le foot?
Ouais, tout le temps.
Est-ce que les stars font encore plus que ça? C'est-à-dire qu'ils s'infligent encore plus d'entraînement et...
Bah, il y a la légende de Cristiano Ronaldo, quoi, où on dit qu'il arrive toujours une heure avant tout le monde, qu'il tire des coups francs, qu'à la fin de l'entraînement, il reste une heure de plus. Ce côté, oui, où certains, qui sont vraiment des athlètes, ont cette rigueur pour que ce serait le secret vraiment du talent. Après, je pense que...
Mais après, je pense que ça dépend du niveau où tu joues. Parce que je pense... Si on regarde bien un joueur de Ligue 2, je pense pas qu'il... Voilà, et s'il est fatigué, il va s'arrêter. Par exemple, si t'as un joueur qui, par exemple, peut jouer la gagne en Champions League ou dans un grand championnat, bah, il aura faim de victoire et il va s'enchaîner tout seul. Mmh. Après, ça dépend du niveau où tu joues, je pense.
Et vous vous projetez à quel niveau?
Le plus haut.
Pour moi, c'est 6e division de district, déjà, 16. C'est mon maximum, je crois.
C'est bien. Basile est réaliste.
C'est ça.
Mais dire, par exemple, l'équipe qui vous fait rêver?
Liverpool. Ouais.
D'accord. Ils sont venus vous voir déjà au Red Star?
Pas du tout.
Il y avait des clubs anglais. Hein. L'année où j'étais là, il y avait eu un scout de Manchester United qui était venu à un match. On a Sean qui avait fait des essais à Birmingham.
Yes.
Donc, il y a aussi, évidemment, l'Angleterre qui a un œil sur les jeunes d'Île-de-France.
Voilà, parce que c'est un des plus grands viviers d'ailleurs du monde. Hein,
si c'est ce n'est le plus grand vivier du monde. Ouais.
Bon, on parle de foot en ce dimanche avec Basile Debure qui est avec nous et Nadir, gardien de but, à l'occasion de la sortie d'une enquête. Hein, vous allez voir, c'est très très agréable à lire. Ça s'appelle Deux pieds sur terre aux éditions Flammarion.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Qui a dit travailler le corps, éveiller l'esprit?
Ah, c'est Jules Rimet.
Bah, bien sûr.
Le fondateur du Red Star.
Pas récent, hein, parce que c'était qu'en 1897. C'est un vieux club, le Red Star, on l'oubliait. Ouais. Hein.
Le quatrième plus vieux club de France, avec une histoire vraiment incroyable.
Alors, on parle de foot aujourd'hui avec Basile Debure, qui est avec nous, qui est journaliste, et puis Nadir, qui est gardien de but. Et donc, cette année, vous êtes où, Nadir?
Je suis à Montrouge.
D'accord. Donc, vous avez bougé?
Ouais, c'est ça.
On est venu vous chercher?
On peut dire ça comme ça.
Voilà. Et vous êtes un des héros du livre de Basile. Mais ça, Basile, vous l'avez promis, hein, d'être un de ses héros. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Après, maintenant, peut-être qu'il l'a pas fait en vrai.
Tu te rappelles ou pas?
Ouais, non, j'ai du mal à me rappeler.
Hein, c'est un livre en immersion, puisque vous avez passé les deux tiers d'une saison avec à suivre cette équipe de U15. Il faut montrer patte blanche pour suivre une équipe comme ça. Comment on fait ?
Ah oui, ouais, c'est vrai que c'était pas évident au début. Déjà de convaincre les dirigeants, l'encadrement, de passer une année en immersion comme ça, de les observer, c'était pas forcément simple. Donc j'ai dû un peu aller voir tout le monde, du président à l'entraîneur Foued. Qui faisait un super travail avec les garçons. Et puis, ils ont accepté de m'accueillir vraiment dans l'intimité de l'équipe. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois que j'étais là, il fallait aussi gagner la confiance des garçons, qui se demandaient un peu qui j'étais, ce que je faisais là, et voilà, de réussir à faire en sorte qu'ils me racontent, qu'ils me parlent, qu'ils me fassent confiance.
Nadir, vous vous souvenez la première fois où il est arrivé dans le vestiaire qu'est-ce qu'il a dit?
Non, au début, il était sur le terrain. C'était sur le terrain, on l'a vu au bord. Deux, trois entraînements au bord, il vient pas nous parler. Jusqu'à au jour, il est venu nous parler et c'est là où ça a changé.
Vous pensiez quoi au départ? C'était quoi? Un recruteur?
Ouais, on pensait que c'était ça. Ah,
parce que c'est ce qu'ils m'ont dit, ouais.
C'est le restart, il parlait d'ouvrir un centre de formation, tout ça, on s'est dit peut-être. Parce qu'en plus, comme on l'a jamais vu, on s'est dit peut-être il vient des hauts placés et tout ça.
Les premiers entraînements, ouais, tout le monde venait me dire bonjour vraiment très respectueusement. Bonjour monsieur, j'étais hyper.
Après, c'est parce de que voir c'est un ça. Recruteur qu'on lui dit bonjour. Hein.
Ah bah, après, ouais. Faut le dire aussi. Je me suis demandé s'il y avait un lien, mais après, ils m'ont dit ça, qu'ils pensaient que j'étais un recruteur. Donc, je me suis dit, peut-être pour ça.
Il y a des faux recruteurs, vous dites, racontez-vous.
Bah, pas des faux recruteurs, mais c'est des gens qui observent tous les matchs. C'est vrai qu'à chaque match des garçons, et même quasiment à chaque entraînement, si vous jetez un œil dans la tribune, vous voyez des ombres, des types un peu comme ça, avec un iPad en train de filmer, de les observer. Vraiment, le fait d'être observé, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien des garçons. Moi, je trouvais ça très pesant au début, et en parlant avec eux, je me rendais compte que c'est quelque chose qu'ils avaient enregistré, mis dans un coin de leur tête, et qui leur mettait pas de pression. Et en fait, on se rend compte en discutant un peu que ce sont des gens qui passent leur temps sur tous les terrains d'Île-de-France pour observer les garçons et je sais pas exactement quoi faire, mais filer un bon tuyau sur un jeune de tel endroit, ils connaissent parfois un agent, un entraîneur d'un club pro, et voilà, ils peuvent donner un bon tuyau comme ça. Mais c'est une science et un métier vraiment à part entière. Moi, j'étais frappé de voir quelquefois comme des gens que je voyais sur tous les terrains, ils connaissaient tous les jeunes d'Île-de-France et qui a une connaissance.
On va pas se mentir, excuse-moi Basile, mais on va pas se mentir, si les gens ils font ça, prennent des risques sur leur vie, tout ça, c'est parce qu'il y a de l'argent à gagner aussi. S'il n'y aurait pas d'argent dans le foot, il n'y aurait personne.
Comment ça se passe après? Ils vont voir les parents qui ils essayent de convaincre?
Ouais, les agents, la première approche, c'est est-ce que tu as le numéro de ton père ou de ta mère, etc. Et après, ils essayent d'amadouer les parents avec des promesses.
Vous les appelez les vendeurs de rêves un petit peu?
Complètement. Oui, puisqu'il y en a qui peuvent faire justement des fausses promesses pour s'attacher à la confiance d'un joueur. Et puis le jour où ça marche pas, si le petit signe pas, l'agent disparaît et vous laissez un gamin avec des rêves brisés. Je pense que c'est ça sur lequel il faut être très prudent. Et encore une fois, dans Deux Pieds sur Terre, il y a cette notion, la conscience de l'échec potentiel. De se dire, on travaille, on gravit les étapes, mais il y a toujours l'échec potentiel qui nous guette. Qu'on sait qu'on n'est jamais arrivé avant de signer un contrat professionnel. Et que même la pépite, le meilleur joueur à 13-14 ans, il peut malheureusement avoir une blessure, un mauvais entourage, ne pas résister à la pression. Et on sait à quel point c'est difficile. Donc il y a toujours une prudence.
Par exemple, l'année où Basile vient vous observer, vous... Nadir, vous êtes en compétition, vous êtes en binôme avec un autre gardien et donc vous faites un match sur deux.
Ouais, c'est ça. L'entraîneur, il a instauré ça au cours de saison. Mmh. C'est ça, quand t'as deux bons gardiens dans une même équipe, c'est difficile de faire des choix.
Hein. Mais comment vous le vivez, vous, ça, à ce moment-là, alors qu'avant vous tourniez pas?
Au début, je l'ai vécu mal. Je l'ai vécu mal un peu. Et après, on s'est fait avec. Hein. Parce qu'après, c'est pas comme si c'était un inconnu qui vient à côté de moi non plus, tu vois. C'est quelqu'un qui travaille tous les jours, qui est un bosseur. Mais puis, comme j'ai dit toujours, c'est un frère aussi. Mmh. On est tous des frères.
Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Quand vous êtes sur le banc à regarder le match?
Non, en U15, il n'y a pas de banc. Donc, il y a trois remplaçants seulement. C'est-à-dire qu'il prend que trois joueurs. Et il se casse pas la tête à prendre un gardien en plus. Donc, les tribunes, ouais, on supporte l'équipe. Hein. Parce que nous, on pensait à gagner un trophée. C'est ça qu'on voulait.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le collectif est plus important que l'individuel, c'est ça que ça veut dire?
Oui, bien sûr. Parce qu'on savait, en fait, on savait tous que tout le monde, que un bon nombre allait signer, allait se barrer. On pensait plus à vivre notre dernière saison à fond. Et voilà.
Ouais, c'est ça qui était super dans cette équipe, c'est que au-delà de la concurrence et du rêve de devenir footballeur, c'était aussi une vraie bande de potes, avec certains qui jouent ensemble, bah, comme Sean et Nadir depuis les U6. Et il y avait vraiment un noyau dur de gars qui jouent ensemble depuis des années, ce qui est assez rare dans les équipes en Île-de-France à ce niveau-là.
Alors dans votre livre, on voit les difficultés que vous avez, Nadir, à vous adapter à votre nouvel entraîneur. Qu'est-ce qui ne collait pas, par exemple, avec les méthodes de Foued?
Non, ben, c'est comme ça. Hein. Quand dans un groupe, il y a deux personnes de fort caractère, ben, je pense que c'est normal. Mais bon, après, avec du recul, on se dit que voilà.
Mais Foued, je voudrais insister sur un point, c'est que c'était vraiment un super entraîneur, mais qu'il avait vraiment cette exigence. Il poussait les garçons au bout de leurs limites. Et que vraiment, à la
c'est ce qu'on voit bien, ça, vous montrez bien ça.
Et que parfois c'est dur, qu'il faut parfois crier, qu'il faut parfois faire jouer la concurrence, mais qu'au fond, à la fin de l'année, tous les garçons me l'ont dit, on n'a jamais autant progressé. Donc ils avaient été parfois bousculés en début de saison, le temps de s'adapter à ce tempérament, à cette exigence. Et puis au final, ils ont tous pris le pli et ils ont tous énormément progressé. Et puis ce qui est super avec Foued, c'est qu'on voit aussi qu'il s'attache beaucoup à cette équipe, qu'il a un super rapport avec les garçons et que voilà, il y a un truc presque paternel aussi qui passe dans la relation entre le coach et les joueurs.
Ce qu'il explique, que finalement il n'aime pas avoir une équipe deux années de suite, parce que quand on s'attache trop d'un point de vue humain aux joueurs, c'est difficile de faire des choix après.
Exactement, ouais. Difficile de trancher, de mettre un joueur sur le banc si on s'entend bien avec lui. Et puis il m'a dit ça, et finalement à la fin de l'année, il a fini par conclure en me disant « Mais qu'est-ce que j'aurais aimé continuer avec eux ?» Que s'ils les avaient eu une saison de plus, si toute cette génération avait pu rester ensemble, de toute façon, ça aurait été une équipe fantastique l'année d'après.
Nadir ?
Ouais, ce serait monstrueux. Hein. On aurait fait mal. Hein.
Malheureusement, le Red Star n'a pas encore de centre de formation, donc tous les garçons sont partis à droite, à gauche. Mais le jour où le Red Star pourra ouvrir son centre, ce qui est un de ses objectifs, et où ils pourront garder comme ça ces générations qui ont eu l'habitude de jouer ensemble, ça va être magnifique. Ils auront un formidable centre de formation. Donc je leur souhaite.
Bon, alors sur le soundtrack du livre, on va écouter un... Non ? Nadir, ça vous fait plaisir ou pas ? Parce que sinon, on en met d'autres. Ah bah, si vous voulez, ouais.
Ah, moi, je me rappelle plus, j'ai mis quoi. Hein. Parce qu'en fait, c'était une période de ma vie où j'avais mis un son au hasard.
Ah bon ?
J'avais pas fait attention.
Parce que moi, je l'ai écouté. Alors, je vous dis que Royce, je l'écoute pas tous les jours. Hein. Pas de témoin.
Ouais, en fait, c'était un son, il commençait à faire beau, ça a ambiancé un peu.
Donc c'est fini, c'était l'année dernière, c'était il y a deux ans.
Ouais, bah ouais.
Ouais, sinon, c'est Gloria Gaynor, I Will Survive, dans sa version originale de 78.
Moi aussi.
C'est pas mal.
Ben, dans la vraie, alors qu'est-ce que vous choisissez, Nadir ? C'est que la discothèque de BorFM, c'est pas comme ça. Nous, on a tous les choix, si vous voulez.
Franchement, je sais pas.
Bon, Nicolas, tu penses quoi ? Bon, Royce, on l'écoute moins.
Ah ouais, ça fait longtemps.
Ça fait des souvenirs.
J'ai vraiment mis ça ? Attends, je suis malade, moi.
Maman dehors c'est noir, en bas ça monte la dose. T'es couché, je suis, plus qu'un pour faire pause. Maman dehors c'est noir, en bas ça monte la dose. T'es couché, je suis.
Je raconte pas ce que j'ai fait, pas de confession. Il demande à JCB, punition, pas de fessier. Il est à peine 11h50, les entrées sont pressées. Donc vas-y, moi j'ai fait ça. Et je fais ça pour les mapper ça. Une nouvelle cargaison, elle passe sur la pesette. Mon négro, dis-moi pourquoi t'as fait ça. J'ai acté sur le net, ben moi je trouve ça très bête. Faut pas que tu craches sur mon dos. Si je vais te niquer ta mère, on déboulera à deux. Fais attention où tu marches, on veut bien tes arrières. Tu vas te faire battre. Ouais, c'est fait que j'ai l'aste qui dégaine la batteuse. Dis-leur tout ce qu'il nie, mon âne a épaté. MLS sur le point de les mener en bateau. Mais bon, c'est les grands qui sont épatés.
Tard, c'est mon meilleur poteau. Trop bien avec lui, pas besoin de papoter. Et l'instru, on la décapite bientôt en décapotable sur la capitale. On n'a pas de capitaine. Pour des ou je te dis à plus tard. Gros, ça galère quand y'a plus terre. On est en train de propager le virus. Donc je te conseille de te mettre sous quarantaine. Shiba à droite, pépé à gauche. J'ai qu'une dispute, ce que tu fais, c'est hoche. Nous, on reste mieux et comme le H de la suite, tu peux même demander à Royce. C'est trop facile pour nous tous. Ça sur la prod, on est même pas à 30%. Tire pas trop fort, tu vas tousser. Tout pour le V, tout pour ma tête.
Maman dehors c'est noir, en bas ça vend de la dope. T'es trop chez G6, plus le temps pour faire pause. Maman dehors c'est noir, en bas ça vend de la dope. T'es trop chez G6, plus le temps
temps pour faire pause.
Comment faire quand tu comptes que sur les autres? Avec eux tu y arriveras pas. Que c'est bon des sur Odav à des kilomètres. S'ils arrivent on est déjà plus là. Et nous on n'est pas du genre à trop papoter. Donc ça remet rien à demain. Avant de commettre un délit on donne un délai. Les bélèques ne laissent pas d'impact.
C'était trop chez G6. Ça bouge dans tous les coins. 3-5-7 reste piste. Personne n'ose là pour pas de témoin. C'était trop chez G6. Ça bouge dans tous les coins. Reste piste, personne nous alentour, pas de témoins.
5 potes, 2-3 putes, fais-moi des pattes et fais ça vite. 2-3 sons, ils en veulent plus. Je sais que je fais mal, donc 2-3 fuites. Pas les coups, tu pleures, je vais manger. Brassé, pourtant, je suis même pas majeur. Cherche ma salle comme un étranger. Et si t'es pas content, guette ton majeur.
Dans le bec, ça avec la CGC, si on fait le tour de la ville, c'est plus là parce qu'il paraît. T'as capté le bail, c'est bon, carré maillot jardin, tu sais que ça va être pareil. J'ai rêvé de la vie, de rêve pendant tant d'années. J'ai déjà douté. Voilà, ça, je t'excite comme un gâteau. Des verres à 16h pour y goûter.
On change pas une équipe qui gagne. Pourtant chaque année y'a des recrutements. Je te demande qui nous égale. Je t'écoute parler mais je sais que tu mens. Love les sous, vive les sentiments. Fuck les meufs avec leurs sentiments. Et si t'es fou viens dans ma tête. Tu connaîtras le châtiment. C'est pas le bâtiment, il me reste que tu m'entends. Ça bosse à la puce, 6 ans au matin. Les lunettes attachées pour la mater. C'est l'omadin, rassembler le marteau. Tu jambes dans le bâton, n'est pas maçon.
Maman dehors c'est noir, en bas ça vend de la dope. T'es trop chez G6, plus le temps pour faire pause. Maman dehors c'est noir, en bas ça vend de la dope. T'es trop chez G6, plus le temps pour faire pause.
Comment faire quand tu comptes que sur les autres? Avec eux t'y arriveras pas. Que c'est bon des sons, Odav à des kilomètres. S'ils arrivent on est déjà plus là. Et nous on n'est pas du genre à trop papoter. Donc ça remet rien à demain. Avant de commettre un délit on donne un délai.
C'était trop chez G6, ça bouge dans tous les coins. 3-5-7 reste piste, personne n'en sert la tour, pas de témoin. C'était trop chez G6, ça bouge dans tous les coins. 3-5-7 reste piste, personne n'en sert la tour, pas de témoin.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, vous retrouverez toute l'équipe de Fou de Foot ce soir, mais on parle de foot aujourd'hui dans le Book Club, c'est pas tous les dimanches, avec mes invités Basile Debure qui est journaliste et puis Nadir qui est gardien de but à Montrouge cette année pour parler d'un livre qui s'appelle Deux pieds sur terre. Chez Flammarion, vous êtes pendant une année, quasiment une saison, infiltré dans le club, dans le centre de formation du Red Star. Pourquoi le Red Star d'ailleurs? Comment est-ce que vous avez choisi ce club?
Alors, quand j'ai commencé mon enquête, je suis allé observer un peu toutes les équipes d'Île-de-France. Je voulais vraiment trouver la meilleure équipe de cette catégorie. Une équipe dans laquelle j'avais une chance de trouver des futurs stars peut-être, mais en tout cas des jeunes qui allaient signer dans des centres de formation. Donc je suis allé observer toutes ces équipes, je suis allé à Montfermeil, à Torcy, à Boulogne, à Colombes, et quand j'ai vu jouer cette équipe du Red Star, j'ai eu un coup de foudre. Il y avait vraiment quelque chose dans le jeu, dans la qualité technique, dans la personnalité des garçons qui étaient sur le terrain qui m'a tout de suite séduit. Après, c'était aussi formidable d'être au Red Star parce que c'est un club qui a une histoire assez incroyable. Comme on le disait tout à l'heure, un des plus vieux clubs de France, mais avec aussi une tradition politique très forte, une présence de la culture très importante avec une association qui s'appelle le Red Star Lab, qui est formidable et qui fait faire plein de choses aux garçons pour les sortir un peu du football. Donc il y avait vraiment une ambiance, un contexte à Saint-Ouen qui était parfait pour mon enquête.
Tu as fait une performance d'ailleurs, Nadir, avec le Lab.
Oui, c'est ça.
Tu te rappelles?
Ça vous plaît, c'est...
Ouais, ça va, c'est bien. Ça fait changer un peu.
C'est la performance d'ouverture des rencontres de la photo à Arles. Donc c'était quand même la classe.
Ouais. Vous avez été approché par un directeur de casting aussi?
Ouais.
Pour faire du quoi? Du cinéma?
Ouais, c'est un film.
Et?
Ben, je dis non. Enfin, j'ai passé des trucs là, que je sais plus comment ça s'appelle. Des essais, ouais, des castings, tout ça. Après, j'aurais dit non. Parce que ça prenait sur le foot.
C'était pas assez bien payé?
Non, ça prenait sur le foot.
C'est-à-dire que finalement, pour vous, le foot, c'est plus important que le cinéma?
Ouais, bah oui. Et en plus, il y avait les menaces de fouet de notre entraîneur qui tournaient dans ma tête. Non. Moi, je voulais pas rater ça.
À quel moment vous avez compris, vous, Nadir, la place que le football occupé dans votre vie? À quel moment vous vous êtes dit finalement le football c'est ma vie? À 5 ans, c'est déjà ça ou c'est arrivé après?
Non, c'est venu à 10 ans, 10 ans, 11 ans. Bah, quand on a fait notre finale au Stade de France, Coupe 93, et qu'on l'a gagné, c'est là où je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
Mmh. Vous avez commencé au Red Star, vous aviez 5 ans, donc là vous avez quitté votre club. Ça fait quoi de quitter un club où finalement on a passé toute sa vie de joueur?
Ouais, ça fait bizarre.
C'est pas une trahison?
Non.
Non?
Non, je vois pas ça comme ça. Franchement, non. Parce que c'est pas un club rival. Donc, c'est pas comme si je suis allé au Paris FC ou.
Alors voilà, vous expliquez que voilà, le grand rival, c'est le Paris FC.
Ouais, bah, c'est ça.
Ça, c'est la trahison intégrale.
Ouais, pour moi. Pour moi, c'est ça. La grosse trahison, c'est celle-là.
Mais Montrouge, on peut.
Non, puis il a suivi son ambition aussi en allant à Montrouge. C'était aussi pour rejoindre le championnat U17 nationaux, qui est le meilleur de France dans cette catégorie. Et le Red Star, il y a une très bonne équipe, une académie super, mais qui sont en R1, donc c'est la division du dessous. Donc vraiment avec les ambitions de Nadir, ce qui était important, c'était d'aller au cran supérieur, parce qu'il a un niveau national.
Nadir, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire, Basile?
Je sais pas.
D'accord. Ceux qui verront la vidéo verront que, bah, il sait pas. Vous avez réussi à répondre, Basile, aux questions que vous posiez au départ de votre enquête, c'est-à-dire, finalement, quel était le parcours typique d'un gamin aujourd'hui qui voulait être footballeur professionnel? Et combien il arrivait? Ça veut dire combien reste sur le carreau?
Ouais, j'ai une partie de la réponse. En tout cas, pour ce qui est du Red Star et de l'Île-de-France, c'est aussi, mon enquête, elle parle aussi vraiment des clubs amateurs en région parisienne. Je pense que c'est un peu différent si on va dans le reste de la France. Mais en tout cas, oui, j'ai eu une partie de ma réponse. Ce qui est important vraiment de réaliser, c'est à quel point c'est difficile, à quel point c'est impossible de savoir qui deviendra pro. En fait, je me demandais si j'allais tomber sur le futur Kylian Mbappé. Est-ce que j'allais pouvoir dire, ok, lui...
En Red Star, c'était bien, il y avait le bon...
Il y avait des super joueurs, ouais. Mais de dire, lui, il sera pro, j'en suis sûr, c'est quelque chose que je peux pas dire aujourd'hui. Où on sait que c'est trop difficile, qu'il y a des talents incroyables, et je leur souhaite à tous d'y arriver. Mais en fait, en écoutant leurs histoires, aussi de d'autres joueurs, de certains qui sont partis en centre et puis qui sont revenus après parce que ça a pas marché, de talents incroyables mais qui se sont pas accrochés, qui ont arrêté de venir à l'entraînement alors qu'ils auraient signé en centre de formation sans problème. On voit un peu tout ce qui entoure aussi le joueur. Comment est-ce que le mental, l'entourage, j'en ai déjà un peu parlé, les blessures, c'est tellement difficile. C'est ça et c'est pour ça qu'ils ont aussi mon admiration, ces garçons. C'est qui se lancent dans un parcours du combattant mais qui se lancent là-dedans avec une détermination incroyable.
Souleymane Camara, par exemple, il le sait, lui. Il arrive à repérer.
Alors, Souleymane Camara, donc, ouais, lui, c'est un nom qu'on a entendu un petit peu au moment de l'explosion de Mbappé, parce qu'il était recruteur à l'époque à Monaco, et la légende dit que c'est lui qui aurait repéré Kylian et qui l'aurait fait signer à Monaco. Et aujourd'hui, Souleymane Camara est au Red Star. Et c'est justement avec des discussions avec lui que j'ai pu me rendre compte de ça. C'est lui aussi qui m'a dit à quel point c'était difficile de le savoir. À quel point on pouvait jamais savoir si un petit allait devenir pro. Qu'il fallait du temps, qu'il fallait des années d'observation. Et que même des joueurs qui jusqu'en catégorie U20 équipe de France, U19 équipe de France sont dans la sélection nationale, on peut avoir un garçon qui ensuite devient pas pro ou se disparaît complètement. Vraiment... on n'est jamais arrivé, quoi. C'est un combat de tous les jours, même après avoir signé professionnel.
Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi le talent, le travail, la chance?
Un peu des trois, c'est la formule TTC, comme ils disent dans le milieu. Travail, talent, chance.
Mais je pense aussi que le plus important, c'est dans la tête. C'est dans la tête.
C'est le mental?
Ouais. Parce qu'on en a vu plein des joueurs super forts. Moi, dans mon quartier, on peut faire une équipe de foot, on est trop forts. Mais il y en a, ils sont trop forts. Mais
devant la télé ou en vrai?
Non, en vrai, dans mon quartier, ils sont trop forts. Mais le problème, c'est qu'ils ont été lassés, ils en avaient marre de cette pression chaque jour qu'ils avaient. Le fait d'être dans un centre, par exemple, avoir une routine, se lever très tôt, école, foot. Parfois, c'est gavant pour certains. C'est ça le problème aussi.
C'est cette pression-là qui est dure à gérer.
Parce que le talent, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est juste ce que t'as dans la tête et l'envie que t'as. Parce que moi, il y a une phrase que j'entendais toujours, c'est pas toujours les meilleurs qui réussissent. C'est ceux qui ont le plus envie. C'est ça qui fait la différence.
D'ailleurs, au foot, c'est pas toujours la meilleure équipe, l'équipe la plus forte qui gagne.
Absolument. Une exception vraiment propre au football.
Comment vous travaillez votre mental, vous, Nadir, par exemple? Un coach? Est-ce que vous avez un coach mental?
Non, faut aller jusque-là. Mais
est-ce que vous connaissez des gens qui ont des coachs mentaux? Ou
non,
pas
ma connaissance.
C'est pas encore arrivé? Basile, vous connaissez
Dans les clubs pro, on sait que ils ont de plus en plus recours justement à des préparateurs mentaux, à des psys. Il y a plein d'exemples, hein, de joueurs vraiment de talent, mais qui avaient ce blocage et qui sont sortis avec l'aide d'un psy.
Mais je pense quand on vient d'un milieu, parfois un milieu dur, où c'est pas toujours facile de vivre dans des milieux comme ça, dans les banlieues ou quoi, le mental, il se vient tout seul. Il vient tout seul. Et voilà. Et aussi au foot, ça forge un mental incroyable. Dès l'âge de plus petit, on sait déjà qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ça qui fait la différence.
Il y a une idée reçue sur laquelle vous voulez revenir, Basile, c'est le fait que les footballeurs ont cette image d'enfant gâté.
Ouais, absolument. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, des prodiges pour qui tout aurait été facile. On cache un peu justement le travail en parlant que de... des grosses voitures, du côté un peu bling. Je pense qu'il y a eu aussi une génération, la génération 87, je pense notamment avec des Nasri, des Benzema, des Ben Arfa, qui en a pris beaucoup justement dans la gueule par les médias, parce que ils n'avaient pas conscience encore de la puissance de l'image, des réseaux, ou des Anelka, qui ont été très maladroits dans la gestion de leur communication et qui du coup sont devenus un peu des boucs émissaires et qu'on leur a mis plein de choses sur le dos en les faisant passer pour des mauvais garçons, alors que c'était, je pense, beaucoup plus de la maladresse. Et que cette génération-là, qui est en train d'arriver, elle a beaucoup plus conscience de ça. Je pense aussi de l'importance des réseaux, de l'image, d'avoir la tête sur les épaules, de pas se faire avoir par tous les problématiques liées à l'argent, et qu'il y a eu vraiment, grâce aux petites erreurs de la génération précédente, une prise de conscience des plus jeunes sur cet aspect-là.
Nadir, les footballeurs, c'est des enfants gâtés ou pas?
Non, c'est pas, on n'est pas des enfants gâtés. Hein. Des fois, c'est même entre nous, on se prête des crampons quand on en a pas, tu vois. Que des petites histoires comme ça. Mais non, rien à voir. Rien à voir.
Ça, c'est une fausse image.
Ouais.
Après, il y a évidemment de tout, mais je pense qu'aujourd'hui, tous les footballeurs ont des fondations, travaillent avec des associations, réfléchissent beaucoup à la façon dont ils peuvent aussi rendre ce qu'ils ont eu. Quand j'en parlais avec les garçons, d'ailleurs, c'est une question que je leur posais souvent. Si tu deviens millionnaire, que tu réussis, qu'est-ce que tu vas faire? La première chose qu'ils disent, c'est la famille, et puis ensuite, d'aider les autres. C'est un réflexe. Bon, peut-être qu'il me disait ça parce qu'il savait qu'il y avait un livre derrière.
Non.
Mais en tout cas, il y avait vraiment cet altruisme.
Donc, pas d'avion. Nadir, pas d'avion.
Une fois dans la vie, ça fait pas de mal. Mais c'est tout.
Perso, quoi, je veux dire, privé.
Non, ça sert à rien.
Mais bon, après, je veux pas non plus idéaliser les footballeurs et les faire passer pour des anges. Hein. Il y a beaucoup de défauts, mais c'est vrai qu'il y a encore quelque chose quand même ancré dans les mentalités. Encore à la Coupe du Monde, je me rappelle d'un lancement d'Anne-Sophie Lapix sur le JT où vraiment elle a eu une petite réflexion hyper désobligeante. Et je trouve ça dommage qu'on ait encore dans un coin de la tête.
Mais c'est français, ça, de toute façon.
Oui, bien sûr.
C'est très français.
Complètement. Ou de toute façon, le sport, c'est quelque chose qu'on méprise un peu, qui n'est pas encore quelque chose de sérieux. Pas comme dans d'autres pays où c'est très valorisé. Là, il y a quelque chose. Le football, bon. C'est pas vraiment sérieux, quoi. C'est dommage.
On reste des gens qui courent derrière des ballons.
Exactement.
Vite. vous allez à Argenteuil, donc il y a un match à Argenteuil, et vous vous posez une question, la question de savoir quel impact la phrase que Nicolas Sarkozy avait dite sur la dalle d'Argenteuil avait eu sur leur vie. Vous avez répondu à cette question?
Alors déjà, ouais, cette phrase...
C'est 2005, donc Nadir...
Ouais, ils étaient trop petits pour s'en rappeler, mais c'est sûr que c'est...
Ouais.
Ouais, j'étais né.
Ouais, t'étais
non,
né.
Mais
je sais
que,
pas si
tu
me rappelle.
Ouais.
Il était allé sur la dalle d'Argenteuil pour dire aux gens on va vous débarrasser de cette racaille. Quelques semaines avant, il avait fait des déclarations à la Courneuve sur le Karcher. Et je pense que oui, que depuis Sarkozy et aujourd'hui encore avec les déclarations de Gérald Darmanin, on a une façon de voir les jeunes de quartier qui est tellement négative en France, de les stigmatiser, de les résumer à ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, qui me fait de la peine, que je travaille aussi dans une association moi qui fait de la réinsertion pour les jeunes des quartiers, et que c'est un contexte dans lequel j'évolue depuis de nombreuses années, et que ce soit avec cette enquête ou mon travail associatif, je me rends compte à quel point les idées reçues sur les jeunes des quartiers, elles sont biaisées, elles sont fausses, et c'est ce que je voulais aussi montrer dans ce livre. Comment est-ce qu'on peut avoir du sérieux, de l'intelligence, de l'humour, l'envie de réussir. Et là, une question que je me suis posée aussi, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi vraiment à créer un modèle d'excellence dans le football en France. En Ile-de-France, on a un tissu de clubs amateurs, des formateurs formidables qui font que si on a une pépite qui naît, un jeune prodige du foot, il sera repéré. Quand est-ce qu'on va faire la même chose dans les quartiers pour le prochain grand écrivain, le prochain grand avocat? Quand est-ce qu'on va se rendre compte de la richesse qu'on a dans ces quartiers et qu'on va réussir à leur donner justement les moyens et la chance de s'en sortir?
Bien. Les Algériens sont très, très représentés, hein, d'ailleurs, vous dites. Hein.
Il y en a pas mal, ouais.
Ouais.
Il y avait un peu de tout, hein, mais c'était Algérien, en Marocain.
Force, en force au Red Star.
Cameroun, Congo.
Nadir.
Ah ben, on est partout. Hein.
De pied sur terre, aux éditions Flammarion. Vous allez voir, c'est les coulisses. Si peut-être vous avez des enfants qui veulent épouser cette carrière de footballeur, voilà, ça va être très instructif. Merci Basile, merci Nadir d'avoir été
merci
avec
vous
ce matin. Et vous réécoutez l'émission sur, en podcast, hein, sur BFM.net. Et vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci et bon dimanche.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur BFM.